Les matins de France Culture, Quentin l'a fait.
Hier soir, l'hélicoptère qui transportait le président Ibrahim Raïssi dans le cadre du retour d'un déplacement en Azerbaïdjan s'est écrasé dans une zone montagneuse et rurale. Selon la télévision d'État iranienne ce matin, il n'y a aucun signe de vie humaine. Alors quelles sont les conséquences de la mort probable du président iranien? Qui était-il? Quel impact sur la vie intérieure du pays, sur la région tout entière? Pour en parler, je reçois ce matin Azedeh Khian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Cité, spécialiste de l'Iran. Et peut-être pour commencer dans ce brouillard, que sait-on concrètement de ce qui s'est déroulé hier soir après le crash de cet hélicoptère?
L'hélicoptère a fait crash hier après-midi au retour de la frontière avec la République d'Azerbaïdjan où le président Raïssi était allé inaugurer un barrage sur un fleuve partagé entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan. On nous dit que la situation climatique était très très mauvaise, il y avait beaucoup de brouillard effectivement. Il s'agissait de 3 hélicoptères et c'est l'hélicoptère qui transportait Monsieur Raïssi et Monsieur Amin Abdullahian, le ministre des Affaires étrangères, qui a fait crash dans, effectivement, comme ça a été dit, dans une région très difficile d'accès, montagneuse. Et pendant des heures et des heures, je suivais ça à la fois sur les sites des gardiens de la Révolution et bien sûr les médias iraniens. Ils laissaient entendre qu'ils sont en train d'envoyer des équipages pour sauver l'hélicoptère accidenté et les personnes qui s'y trouvaient. Mais c'était évident, ça a duré, puis ils ont mis plus de 8 heures avant de pouvoir même dire qu'ils ont demandé à la Turquie donc d'envoyer un hélicoptère avec des moyens de reconnaissance dans la nuit. Finalement, ils ont pu accéder à l'hélicoptère au petit matin, puisqu'il a fait noir, il a fait très très froid, et ils disent maintenant qu'il n'y a effectivement aucun signe quant à la... que tout le monde serait décédé. Il a été annoncé que M. Raïssi est martyr, ainsi que M. Amin Abdullahian, le ministre des Affaires étrangères. Donc, est-ce qu'il s'agissait d'un problème technique? C'est ça qui est mis en avant. Et bien évidemment, la situation très difficile, le brouillard, la pluie, etc. Et le fait que la région est très montagneuse et il s'agit aussi de forêts qui rendaient encore plus difficile la recherche pour retrouver donc l'hélicoptère.
On va parler bien entendu d'Ibrahim Raïssi, mais il faut peut-être nous expliquer avant toute chose, Azedeh Khian, ce que représente le président iranien dans l'architecture institutionnelle du pays.
Écoutez, selon la Constitution, il est le deuxième personnage après le guide de la Révolution. Le président est élu tous les 4 ans au suffrage universel, mais en réalité, le président n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, puisque, et surtout depuis, je dirais, les 20 dernières années, l'essentiel de pouvoir est quand même aux mains du guide Khamenei et les gardiens de la Révolution, tant au niveau de la politique interne qu'extérieure. Donc, c'est pas le président qui décide, le président exécute les décisions prises par le guide, sa maisonnée, c'est-à-dire aussi ses conseillers, et bien évidemment les généraux, les gardiens de la Révolution, raison pour laquelle d'ailleurs hier ce qu'on voyait c'était surtout les chefs des gardiens de la Révolution qui parlaient, qui disaient que tout est à l'œuvre pour retrouver l'hélicoptère accidenté, donc en fait ça montrait très bien aussi, si besoin était, la position des gardiens de la Révolution dans la gestion du pays.
Si on tente de retracer maintenant le parcours d'Ibrahim Raïssi, ce parcours, c'est le fruit au fond du système, de cette dictature iranienne.
C'est tout à fait, parce que M. Raïssi, dès sa jeunesse, entre dans le judiciaire. Et lorsque, en 1988, il était procureur de Téhéran, il était quand même jeune, puisqu'il n'avait que, à sa mort, il n'avait que 64 ans, voire 63 ans. En tout cas, il était très jeune hein, lorsqu'il a été nommé procureur de Téhéran. Et à l'époque, il faisait partie donc d'un comité de la mort qui a ordonné l'exécution sommaire de plus de 4000 prisonniers politiques qui attendaient néanmoins leur libération ayant purgé leur peine. Et depuis cette date, il est connu comme le bureau de Téhéran ou le boucher de Téhéran. C'est un ultra-conservateur qui a toujours continué ses services dans le judiciaire et il a été nommé finalement le chef du judiciaire par le guide. Il était très proche du guide parce qu'il était aux ordres du guide et un temps aussi pressenti pour éventuellement succéder au guide. En juin 2021, sous l'ordre du guide, il a été élu président. Lors de cette présidentielle, le taux de participation a été le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de ce régime islamique. Et en tout cas, M. Raïssi est connu comme quelqu'un de très d'ultra-conservateur, très répressif. Il a mené une politique très répressive et je pense que depuis qu'il est au pouvoir, on est face à une talibanisation du pouvoir iranien face à une société très contestataire. Il a par exemple donné le feu vert aux polices des mœurs de frapper et de réprimer les femmes qui ne respectaient pas le port du voile, d'où l'assassinat de Jina Mahsa Amini en septembre 2022. Par la suite, il était tout à fait d'accord pour réprimer les manifestants, plus de 600 personnes tuées. Et depuis, les exécutions sommaires des prisonniers politiques continuent. Des dizaines, pour l'instant, ont été exécutées parmi ceux qui avaient été arrêtés, des dizaines de milliers. Donc, effectivement, c'est l'aile dure hein, du régime qui est au pouvoir et M. Raïssi en faisait partie, bien évidemment.
Je voudrais retourner en 1988, hein, vous l'avez mentionné, il était à l'origine des exécutions massives qui ont causé la mort de 4000 à 5000 opposants. Il faisait d'ailleurs l'objet d'une plainte en Suisse pour crime contre l'humanité. Sur quoi avait débouché cette procédure, si elle avait débouché sur quelque chose d'ailleurs?
Cette procédure déjà a empêché M. Raïssi d'aller en Suisse puisque il devait aller participer à une conférence à l'ONU qui a été co-organisée avec le gouvernement suisse. Hein, du fait de cette plainte, il en a été empêché parce que c'était trop risqué pour lui. Il risquait de se faire arrêter donc en Suisse, hein, raison pour laquelle il a envoyé M. Hamid Abdelayan, son ministre des Affaires étrangères.
La question qui se pose naturellement ce matin, aujourd'hui, c'est celle de la succession d'Ebrahim Raïssi. À quoi pense-t-on? Comment le régime peut-il organiser cette succession présentement?
C'est prévu dans la Constitution, c'est-à-dire que déjà pour une durée de 5 mois environ, c'est le premier vice-président qui va gérer les affaires courantes du pays, puis avec le président du Parlement, donc le législatif et le judiciaire, ils vont donc organiser la prochaine présidentielle dans une durée maximale de 5 mois. Alors, c'est pas, comme vous le savez, un système démocratique et le guide va à nouveau nommer un autre ultra-conservateur pour succéder à M. Raïssi. Ça, il n'y a pas de problème. Le président n'a absolument aucun statut, disons, décisif et il ne prend pas des décisions importantes qui, elles, sont prises par le guide et, encore une fois, les gardiens de la révolution. Il ne fait qu'exécuter ces décisions. En tout cas, c'était le rôle de M. Raïssi. Alors, il y a eu des autres présidents, comme je pense Rouhani ou M. Khatami, le réformiste, qui ont tenté de tenir tête, mais on a bien vu qu'ils ont été aussi incapables. M. Raïssi, pendant son mandat, a montré son inaptitude à gérer les affaires du pays, et même ses connaissances religieuses ont été constamment mises en question par d'autres religieux en Turbanais, de fait que même si on parlait de lui comme l'une des personnes susceptibles de remplacer le guide, de succéder au guide au cas où il décéderait, mais une fois à la présidence, on a, tout le monde a bien vu qu'il en était incapable, et donc je pense que il ne représentait plus de danger pour les autres personnes pressenties.
Il faut aussi replacer ce décès à Zadekian dans un contexte plus large. Que faisait le président iranien en Azerbaïdjan ? On sait que récemment, les relations entre les deux pays ont été particulièrement complexes. Il s'agissait peut-être de réchauffer ces relations.
Tout à fait, il a été dépêché sur place en vue de réchauffer les relations, puisque il y a environ un an de cela, l'ambassade de l'Azerbaïdjan à Téhéran a été attaquée par des personnes armées et les situations se sont empirées, hein, les relations diplomatiques entre les deux pays. L'Iran, normalement, dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, avait toujours soutenu l'Arménie aux côtés de la Russie d'ailleurs, et donc ça avait aggravé aussi les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Donc M. Raïsi avait été dépêché pour rencontrer le président Aliyev, le président azerbaïdjanais, autour de ce barrage sur un fleuve qui est partagé entre l'Iran et la République d'Azerbaïdjan, afin de réchauffer les relations et parler aussi d'un certain nombre de projets de développement entre les deux pays. Donc, c'est au retour de ce voyage que son hélicoptère a rencontré des problèmes techniques, visiblement.
On sait aussi que Ibrahim Raïsi avait joué par le passé un rôle majeur pour structurer ces proxys, ces groupes de combattants par procuration qui agissaient notamment au Liban à travers le Hezbollah, au Yémen à travers les Houthis, en Irak et en Syrie également. En quelques mots, Azadekian, quel impact de ce décès sur l'environnement régional ?
Absolument rien, puisque ce n'est pas M. Raïsi, hein, c'est les gardiens de la Révolution et l'armée Al-Quds, la branche extérieure des gardiens de la Révolution qui gère les interventions et les ingérences du régime islamique d'Iran dans la région. Mm-hmm. Et bien évidemment, la maison du guide, et on sait aussi que ça va continuer à se faire. Hein. Le président n'avait pas un rôle important à jouer dans ces prises de position. Disons que ça fait partie de la politique étrangère et régionale du régime islamique depuis le début, et ça va continuer.
Merci beaucoup Azadekian d'être venu nous éclairer sur cette actualité brûlante ce matin. Je rappelle que le président Ibrahim Raïsi est annoncé mort selon la télévision d'État iranienne. Azadekian, je rappelle également que vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Cité, spécialiste de l'Iran. Merci encore.
France Culture invente le manga audio. Épique, comique, parfois gore et même
kawaii.
Doruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village.
C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ?
Doruido, une série originale écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hocquet.
J'ai envie de voyager.
À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.